BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Happy Boulot le Mag. Une rentrée, mais qui va bouleverser le monde du travail. Toutes les incertitudes sont permises, bureau masqué ou télétravail, voilà le choix qu'on a à la rentrée. Ça vous met le cafard et encore, on n'a pas parlé des perspectives économiques. Vous êtes au bon endroit, on va tenter de réenchanter la rentrée. Au menu ce soir, la DRH de SAP, Caroline Garnier, qui nous attend. On lui demandera comment se passe la rentrée dans des activités qui sont quasiment 100% télétravaillable. Et puis quand on commence un cycle, on commence toujours à parler avec Eric Albert. Il est psychiatre et cofondateur de YouSide. Il sera avec nous, avec Benoît Serre, le secrétaire général de l'ANDRH. On parlera éparpillement des corps sociaux, mais sans violence. On vous donnera aussi des conseils à destination de ceux qui veulent changer de job. Ça sera en fin d'émission et ça sera avec l'APEC. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business. Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Caroline Garnier, bonjour, vous êtes notre DRH de la rentrée, vous travaillez chez SAP France. Alors SAP France, c'est le leader mondial du marché des applications d'entreprise. En gros, vous fabriquez des logiciels à destination des entreprises. Comment ça va quand on est DRH d'une grosse entreprise comme SAP en ce début de rentrée compliqué quand même, hein?
Bonsoir Laure, bah, écoutez, ça va très bien. On est effectivement, comme vous le disiez au début de votre magazine, en télétravail quasiment total. Donc depuis le confinement, ou le déconfinement, on a repris progressivement le travail dans les locaux, mais la priorité reste au télétravail puisqu'on a la chance de pouvoir assurer la continuité business. Donc ça se passe plutôt bien. On a la possibilité de revenir sur site à hauteur de 30% des effectifs pour recréer un petit peu de lien social avec les distances sociales évidemment. Le port du masque qui s'annonce pour bientôt et qui va peut-être effectivement freiner un petit peu les élans. Mais en tout cas, on reste sur cette tendance-là au moins jusqu'au 15 septembre. Ensuite, on a prévu d'organiser ce qu'on appelle des get-together, c'est-à-dire que les équipes puissent se réunir alors par maximum 10 collaborateurs pour se retrouver un petit peu et relancer un petit peu la dynamique, même si elle est encore très très présente. Nos salariés sont très comités.
Là, avec l'obligation du port du masque à partir de lundi, globalement, bon, c'est le 1er septembre, mais en gros, à partir de lundi au bureau, tout le monde sera masqué. Il y a des collaborateurs qui vous disent « Bon, sincèrement, moi, je reviens pas, je préfère être chez moi pas masqué que masqué au bureau ?»
Alors, pour l'instant, non. Nous, on a imposé le port du masque dès lundi. On avait déjà eu ce débat-là, puisqu'on travaille effectivement en open space. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup non plus de personnes présentes sur site. Donc, c'est pas un gros enjeu. Mais effectivement, ça va... je pense que nos salariés vont en tenir compte dans leur choix de revenir. Nous, on part aussi sur une réflexion un petit peu plus long terme. Donc, on offre une perspective de ce qu'on appelle flex work. Donc, on lance un pilote quelques semaines, suite aux aspirations qu'on a senties auprès de nos collaborateurs, d'avoir un travail un petit peu plus flexible en termes d'horaire, et non pas que du télétravail, évidemment, full télétravail comme on dit, mais avoir la possibilité de mixer leur rythme de travail tout en assurant la continuité, effectivement, business.
Donc, quand on est dans l'informatique, qu'on fabrique des logiciels, on est quasiment 100% télétravaillable, la continuité de l'activité a été totale, ça a été facile ou quand même il y avait des gens qui ont eu du mal à arrêter totalement d'aller au bureau?
Alors, ça a été assez facile en termes de continuité business puisqu'on a déjà tous les outils collaboratifs disponibles et qu'on utilise quotidiennement en dehors de cette période inédite. On a également déjà une pratique de télétravail puisqu'on a un accord qui date de 7-8 ans maintenant et qui a été enrichi il y a un an de ça. Donc on peut être jusqu'à 2 jours de télétravail. Mais effectivement, cette période est un petit peu particulière. Mais bon, c'est pour ça qu'on a lancé ce projet de Flexwork pour répondre aux aspirations de nos collaborateurs et en collaboration avec nos partenaires sociaux.
SAP, c'est une entreprise allemande,
oui.
Au départ, enfin toujours. Est-ce que cette culture allemande est toujours présente? Et est-ce que là, vous avez des différences de directives entre la filiale allemande, la filiale française?
Alors en fait, on a une Global Pandemic Task Force, donc mondiale, qui donne un certain nombre de directives, et notamment le télétravail reste la consigne assez forte dans cette période-là, avec une autonomie laissée à chacun des pays en la matière, en fonction de nos contraintes sanitaires, effectivement, qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc on est une société certes allemande, mais avec une culture très très internationale.
En tant que DRH, vraiment, vous, oui. qu'est-ce qui vous obsède au quotidien dans cette gestion de la reprise et de la pandémie? C'est le cas qui est détecté dans vos équipes? Qu'est-ce que c'est?
Non, je dirais que c'est vraiment s'assurer d'être à l'écoute de nos collaborateurs, parce qu'effectivement, quand ils sont à distance, il est un petit peu moins...
C'est cette fameuse ce fameux éclatement des corps sociaux dont je parlais. Comment on travaille ensemble quand on est complètement diffus comme ça sur différents endroits? Vous faites comment?
Alors nous, on a privilégié l'écoute de nos salariés. Donc on a fait un certain nombre d'enquêtes déjà pour nous assurer que les mesures mises en place répondaient aux attentes ou voir s'il fallait les ajuster. Deuxièmement, on a partagé avec nos managers et les collaborateurs les best practices qui ont été mises en place pour recréer un petit peu ce lien virtuel aussi, physique.
Justement, plus virtuel. Il y en a marre,
voilà, du virtuel. Exactement. Donc ça, c'est un des points. On a aussi digitalisé complètement notre qualité de vie, notre programme de qualité de vie au travail.
Donc vous faites des apéros Teams, des groupes WhatsApp.
Des conférences de diététique, du yoga virtuel, de la mindfulness qui est animée par nos salariés, des sessions de coaching virtuelles, etc., etc.
Est-ce que vous allez... changer votre programme de recrutement pour l'année ou vous en êtes où en fait?
Alors écoutez, non, on ne change pas notre programme de recrutement. C'est vrai qu'il a un petit peu ralenti parce qu'on n'a pas souhaité non plus intégrer des collaborateurs dans cette période-là où on ne peut pas les accueillir ou difficilement, en tout cas pendant la période de confinement.
C'était quoi l'objectif de recrutement sur l'année?
On n'a pas d'objectif, on ne fixe pas d'objectif de recrutement, mais généralement on embauche à peu près 200-250 personnes par an en France.
Mais en gros, on reste sur ce rythme-là.
On reste sur ce rythme-là, sachant qu'on est quand même vigilant à ce que l'intégration se passe bien. Et c'est vrai que le télétravail fonctionne bien quand on a l'habitude de l'entreprise. Quand on arrive dans une entreprise qu'on découvre pour la première fois et qu'on ne connaît ni l'équipe, ni le mode de fonctionnement, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc on a quand même intégré beaucoup de collaborateurs pendant le confinement avec des onboarding virtuels.
Vous recrutez toujours, en fait. C'est ça ma question. Oui. Ma question clé, comme toutes les boîtes de la tech et du numérique, vous avez un sujet sur les femmes. Oui. Sur le recrutement des managers femmes. Vous avez un objectif de 30% de femmes à des postes de management d'ici 2022. Oui. C'est dans deux ans. On en est où là?
On est à 23% pour la France. Donc c'est donc assez challenging.
Mais c'est challenging, 30%.
30% c'est challenging.
Ouais. Chez EDF, ils sont à 50%, mais ils se sont mis un objectif à 10-15 ans. Mmh. Nous, même 30%, c'est très challenging.
C'est challenging.
Sur le management.
Voilà, dans des postes de management. Sur les équipes, on est à 30% de femmes dans nos effectifs et on vise 50%, donc la parité d'ici 2030 au niveau du groupe.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas comme ça dans la tech à attirer les femmes? Qu'est-ce qui manque?
Alors, qu'est-ce qui manque? Je pense que la culture est là, la volonté est là. Après, il nous manque aussi des profils. Toutes les sociétés tech, ça arrache les femmes en ce moment. Donc, il faut arriver à les attirer et il faut les retenir aussi. Ensuite, on a des métiers qui sont à la fois très techniques. Donc, ce n'est pas là aussi où elles sont le plus attirées. Il n'y a pas non plus beaucoup de femmes en sortie d'école d'ingénieurs, quand même.
Le vivier n'est pas énorme.
Donc nous, on essaye aussi de favoriser la mobilité et la promotion interne de ce côté-là. Mais effectivement, on a 30% de femmes. Donc
On va faire un petit quiz top ou encore. Tous les DRH y ont le droit. Vous me dites si on continue ou pas le CV papier.
Non, nous, on est très LinkedIn.
Très bien. Le team building?
Oui.
Les chief happiness officer?
Aussi.
LinkedIn, à fond?
À fond.
Vous êtes à fond toute la journée? Vous êtes sur LinkedIn?
Toute la journée, non, mais souvent, oui.
Les baby-foot?
On en a, des baby-foot connectés, mais c'est appréciable.
Les salles de sieste, vous en avez?
On en a aussi,
oui. Elles sont interdites maintenant?
En ce moment, oui.
Les horaires?
Stop. Les horaires, flexibilité, flexibilité totale pour chez nous.
Les tests de personnalité?
On n'en fait pas.
Ah, donc vous êtes contre au départ ou...
Contre, non, on n'en pratique pas.
J'avais rencontré il y a quelques années quelqu'un qui travaillait aux ressources humaines chez vous qui disait qu'il y avait 8 étapes à passer pour rentrer chez SAP. Est-ce que c'est vrai?
Non, on a simplifié un petit peu les process, on est plutôt sur 5.
Ah, je me disais, il faut 2 ans quoi, entre le moment où on arrive et le moment où on commence à travailler.
On arrive assez rapidement. Après, effectivement, on a aussi un temps de monter en compétences qui est assez long sur SAP.
C'est quoi la définition pour vous du talent aujourd'hui, la pépite qui évolue chez vous?
La pépite, c'est quelqu'un, je dirais, qui est adaptable, qui sait s'adapter, qui a la volonté d'apprendre, puisqu'on est dans des métiers qui évoluent très très vite et qui a l'esprit d'équipe.
Ça, c'est ce que veut tout le monde, quelqu'un capable de penser sur tous les pans. Bah oui, bien sûr, c'est la pépite. Merci beaucoup, merci. Caroline Garnier, d'avoir été avec nous. Vous êtes la DRH de SAP France. On va continuer de parler de la rentrée, d'essayer de réenchanter la rentrée. On a des projets fous comme ça dans Happy Boulot Le Mag. Merci beaucoup. On continue avec notre partie Better Together.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag. Better Together.
Mon sacré défi, hein, réenchanter la rentrée quand on en est entre choisir entre le masque ou le télétravail, c'est quand même pas la fête totale. Et encore, j'ai pas parlé des perspectives économiques. Éric Albert, bonjour.
Bonjour.
Psychiatre, fondateur de YouSide. Benoît Serre, bonjour. Secrétaire général de l'ANDRH. Vice-président, pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai raté une étape ou ça fait longtemps ?
Non, ça fait très quelques années.
Ah oui, donc j'ai complètement, d'accord, c'est moi qui suis complètement au côté de la plaque. Mais c'est bien déjà, secrétaire général.
Oui, c'est bien aussi.
C'est mieux, vice-président, oui. Vous avez raison, c'est important les titres, c'est très important. Éric Albert, quand je dis réenchanter cette rentrée, c'est le travail de qui ? C'est le travail du manager de donner un peu de positif comme ça dans l'entreprise ?
Je dirais que d'abord, c'est le travail du dirigeant. Dans le contexte dans lequel on est, où... tout le monde se dit économie, tout le monde se dit retour au boulot, mais alors avec une pression d'enfer. Et tout le monde raisonne comment je gère ma fin d'année. Et du coup, je joue sur l'effet d'opportunité pour supprimer les formations, toutes les réunions entre les acteurs, tout ce qui est du registre de ce qui crée la dynamique collective. Il y a d'abord et avant tout une prise de conscience des dirigeants que on sort d'un traumatisme. Alors tout le monde a passé des vacances, on a eu vraiment beaucoup besoin de ces vacances. Ce qui se présente est extrêmement difficile. Et la résilience dont tout le monde nous parle, ça commence d'abord par l'optimisme. Et l'optimisme, s'il ne descend pas par le dirigeant qui a en perspective que ce que vous disiez, cet éparpillement des acteurs, cet isolement des acteurs. On vient d'avoir une DRH qui nous dit « Tout va bien ». Ben non.
Elle essaye d'avoir de l'optimisme.
J'entends bien. Mais l'optimisme, c'est pas dire « Tout va ».
C'est déjà pas mal.
c'est bien, mais tout va pas bien. On sait que tout va pas bien. Donc, on a vraiment cet enjeu de se dire « On est dans un moment... » qui est un moment vraiment difficile dans lequel il ne suffit pas de maintenant retour aux résultats, économie et pression sur le business, parce que précisément, on n'est pas en condition d'avoir des acteurs qui peuvent donner tout ce qu'ils peuvent autour de ça. Et on voit bien, c'est ce que vous avez bien pu suivre au cours de... Il y a eu un engouement pour le télétravail extraordinaire.
Même moi je voulais en mettre partout, personne revient au bureau.
Exactement. Donc mai-juin là, c'était formidable. Tout le monde est en train de se dire oh là là, le télétravail, on voit bien la limite. Donc l'enjeu est autour de ça.
Benoît Serre, Éric Albert nous dit la DRH des SAP est peut-être trop optimiste. En même temps, il ne faut pas être pessimiste. Il faut réenchanter la rentrée. Comment on fait en fait ?
En fait, il faut être réaliste. Les DRH aujourd'hui, ils ont trois défis qui sont quasiment incompatibles entre eux, quoi. Leur premier boulot, parce que c'est comme ça, c'est s'assurer que le fameux protocole sanitaire est respecté, et ça fait un peu police à l'intérieur de l'entreprise quand même.
Ça c'est facile, limite c'est écrit quand même.
C'est pas facile de le faire respecter, parce que quelqu'un qui garde son masque toute la journée, vérifier que quand ils se croisent ils ont des masques, enfin tout un tas de choses. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est le plus important des défis, et c'est comme ça que ça pourra aller un peu mieux, c'est reconstituer les collectifs de travail. Il ne faut pas perdre de vue que depuis 6 mois, les entreprises ont explosé. Le corps social des entreprises a explosé. Et on a eu à gérer un corps social explosé en 3, globalement, ceux qui étaient en télétravail, ceux qui étaient sur site, et ceux qui étaient plus ou moins au chômage partiel ou en arrêt selon les situations. Et puis le troisième défi, c'est, il ne faut pas se leurrer non plus, hein, c'est les conséquences économiques de tout ça, qui signifie... à peu près, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 280 plans sociaux lancés en France actuellement. On peut craindre qu'il y en aura encore plus demain. Donc le DRH, il va aussi falloir qu'il gère ça. Donc, dire que tout va bien, c'est une forme de méthode couée, parce qu'on est dans une situation qui est très particulière, que je définirais un peu différemment. C'est qu'on est entre deux. On n'est pas dans le confinement, on n'est pas dans le normal, on est dans un espèce de système instable où les gens ne savent pas très bien comment ça se passe. Je faisais l'expérience tout à l'heure. Vous revenez au bureau avec la volonté de convivialité et des moments collectifs, sauf qu'il n'y a personne dans les étages. Et donc, les gens repartent chez eux. Parce qu'on ne sait pas bien, en fait. Il y a une espèce d'instabilité. Et le télétravail, effectivement, on est en train, non pas de freiner, mais de se dire c'est beaucoup plus compliqué que l'espèce d'engouement qui s'est passé en mai-juin, tout le monde en télétravail, ça va être formidable. Sachant que le télétravail, c'est quand même qu'une seule partie des salariés. Hein.
Mais quels sont, du coup, les outils que peut avoir, je mets le DRH dans la liste des managers, ceux qui dirigent, pour tenter de faire une émulsion auprès de leurs équipes, s'ils ont les team building qui n'existent pas, s'ils prennent conscience des difficultés économiques, ils coupent quand même un peu dans les petits trucs à côté sympas qui créent du lien social. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, franchement ?
Précisément, il faut projeter l'entreprise par rapport à l'entre-deux dont on vient de parler. Il faut projeter l'entreprise dans le futur et non pas maintenir tout le monde dans cet entre-deux extrêmement inconfortable dont on ne sait pas combien de temps il va durer. Et donc il faut pour remettre de l'optimisme, c'est pas de dire tout va bien. C'est remettre de l'optimisme, c'est de se dire voilà ce qui nous fait croire dans l'entreprise dans le futur et voilà comment on continue à investir aujourd'hui dans l'entreprise du futur et sur les gens. Donc comment est-ce que la notion de formation revient, parce que c'est les gens voient bien que quand on met plus de formation, ça veut dire que on y croit plus.
On a plus d'espoir.
Voilà, hein. Exactement. Donc comment est-ce que on recrée quand même du présentiel malgré les masques, parce que c'est quand même mieux d'être en présentiel avec des masques que d'être complètement en distanciel. Et comment est-ce que dans tout ce qui remet du sens, dans tout ce qui est qui construit le futur de l'entreprise, on insiste à nouveau et on remet les gens à retravailler autour de ça et non pas de se dire rattraper ce que vous avez perdu. Et donc les petites économies, c'est pas le moment.
Benoît Serre, ça veut dire quand même que le retour au bureau participe en partie de cette reconstruction d'une équipe éparpillée. Il y a un moment, il faut se voir.
Oui, il y a plusieurs choses qui participent au-delà de ce que vient d'écrire Albert. Je crois qu'il y a une logique de transparence. En fait, les gens vivent dans une incertitude sanitaire depuis des mois. Il ne s'agit pas d'ajouter une incertitude économique par rapport à leur emploi. Et donc, les chefs d'entreprise, les DRH, les dirigeants, ont un intérêt, au-delà de ce que vient d'écrire Albert, à être extrêmement transparents sur l'impact que cette crise a eu sur notre activité, quels sont les plans d'action qu'on garde ou qu'on garde pas, parce que en mars, quand les gens se sont retrouvés confinés, ils vivaient sur des projets, sur des choses comme ça. Or, depuis quelques mois, il n'y a plus de projets. On ne sait plus très bien. Donc, la question de transparence, elle est importante, ne serait-ce que pour envoyer un message de « on est lucide » et « voilà comment on va se sortir de la situation, c'est une forme d'avenir ». On vous dit pas que ça va raser gratis demain, mais... Et puis, le troisième point, c'est effectivement, sans doute... ne pas méconnaître que comme la convivialité humaine est difficile à créer dans l'entreprise, c'est à l'entreprise de créer d'autres manières pour que les gens travaillent ensemble et se voient. Le retour sur site, oui, on sait très bien que le tout télétravail, full télétravail toute la semaine, c'est pas jouable de toute façon, c'est jamais jouable. Les DRH l'ont dit dans une étude qu'on a faite récemment, c'est absolument pas jouable.
Même moi, je me suis calmée sur les questions.
Non, mais ça, c'est pas jouable. C'est pas jouable parce que d'abord, ça crée d'autres difficultés, puis ça signifie que l'entreprise a disparu, en fait. Hein. Vous savez, il y a quelques années, c'était Serge Tchourouk, quoi, je crois, qui parlait d'entreprise sans mur, hein, bientôt parlait d'entreprise sans être humain, donc c'est faut pas exagérer. Et par contre, il faut donner aussi des perspectives sur le télétravail. C'est-à-dire que les gens sont en attente de savoir
combien de jours, en fait,
s'ils vont pouvoir conserver un jour et demi, deux jours max de télétravail. Autrement dit, transparence et puis lucidité et donner de la perspective, pas que économique. En fait.
Alors, j'ajouterais proximité.
Oui, bien sûr.
Je crois énormément que la présence des dirigeants auprès des collaborateurs en permanence, dans une espèce de dialogue permanent, dans une espèce de partage. Il y a un vrai besoin de ressentir qu'on partage ensemble un destin commun. Oui. Donc, cette
mais
proximité...
Mais un destin à combien de temps? Parce que vous dites qu'il faut un plan, il faut réfléchir à l'avenir, mais sur combien de temps? Sur 3 mois?
Non, une entreprise, enfin, ça dépend des entreprises, mais la plupart, parlons des SAP, SAP est une entreprise qui se projette pas à 3 mois, qui se projette à 10 ans.
Tant que salarié, vous dites, attendez, moi je sais pas déjà la semaine prochaine si on va encore bosser.
En tant que salarié, je sais qu'on va bosser. Non, non, mais la plupart des entreprises, elles savent qu'en tant que salarié, la semaine prochaine, on va bosser, qu'on a besoin de vous, qu'on est en train de construire 2021, qu'on croit en 2021, et que cette période d'entre-deux qui est inconfortable, certes, c'est inconfortable, mais on ne rajoute pas à l'inconfort la pression de l'inquiétude du boss, parce qu'à la fin des fins, c'est ça. C'est le boss qui répercute sa propre inquiétude sur ses résultats, sur etc., plus sur ses équipes. Donc, il doit totalement absorber ça et se montrer très proche dans une capacité à construire de la confiance dans le futur.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette reprise de la saison d'Happy Boulot. Benoît Serre, vous êtes vice-président de la NDRH, bravo. Éric Albert, vous êtes fondateur de YouSide, des psychiatres. J'espère qu'on a réenchanté un peu le quotidien. Pour ceux qui sont totalement tête brûlée, on va parler mouvement, emploi et carrière.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et si vous changez d'emploi pendant cette période d'incertitude, il faudrait être complètement zinzin. Bonjour Alexandra Petitsigne.
Bonjour.
Vous êtes consultante développement professionnel à l'APEC. Et c'est moi qui vous ai demandé de réfléchir à ça, à quelques conseils pour ceux qui voudraient bouger malgré cette période d'incertitude, qui peut-être trouveraient des opportunités. Malgré ça, vous voyez des profils de cadres tous les jours, hein, c'est votre quotidien. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à partir du moment où ils veulent bouger ?
Alors, peut-être partir sur trois points. Le premier, c'est vraiment de bien comprendre le marché aujourd'hui, hein, au travers de la presse économique, se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est mon marché ? Quelle est sa dynamique ? Donc, on part déjà de ça pour ensuite communiquer, et notamment sur les réseaux sociaux. Donc, moi, ce que je propose, effectivement, en deux, c'est vraiment de rédiger un profil et puis de créer du lien avec, justement, toutes ces informations qu'on a prises sur son marché. Donc, rencontrer les interlocuteurs de son secteur, partager des posts, et puis, au fur et à mesure, développer vraiment sa visibilité.
Mais ça veut dire y aller un peu franco
Ça veut dire y aller franco.
Ouais.
Ça veut dire aussi probablement commencer déjà à discuter, à échanger, à prendre des informations pour être vraiment au clair sur quels sont les us et coutumes, qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui pour me rendre visible, notamment des recruteurs.
Mais il y a toujours ce truc où on dit « Ouais, mais le moment où je me mets à parler sur LinkedIn, je me mets à découvert. Tout le monde sait que je vais me mettre à chercher un emploi. Vous dites « Bon, c'est pas grave, faites-le quand même. »
Faut le faire. Et faut le faire simplement dans un premier temps en questionnant tout simplement, et puis au fur et à mesure on va prendre confiance en soi et puis on va développer la bonne communication, les bons échanges qui vont permettre justement de développer des relations, se rendre visible aussi des différents acteurs, des entreprises clés de son secteur, et puis au fur et à mesure de pouvoir répondre aussi à des offres.
Donc le marché, les réseaux sociaux
et enfin se préparer aux entretiens. Ça, c'est indispensable effectivement de s'entraîner, parce que un entretien de recrutement, c'est une expérience pour notamment les jeunes professionnels qu'ils n'ont jamais vécu. Donc par exemple, moi je propose aux personnes que j'accompagne vraiment de m'envoyer la définition de poste, et puis hop, on s'entraîne. Qu'est-ce que je réponds à telle question? Qu'est-ce qui me semble un piège? Comment répondre aux questions habituelles du type comment vous voyez dans 5 ou 10 ans? Et puis être de plus en plus à l'aise avec cette démarche.
Est-ce que les jeunes que vous voyez qui sont digital natives, qui sont habitués à s'exprimer à travers des vidéos, sur l'entretien vidéo, ils sont plus à l'aise que des moins jeunes?
Ils sont à l'aise effectivement avec les outils, mais pas forcément avec la communication qu'il faut, les bons messages. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre. Savoir effectivement quel est le bon langage pour mon secteur, quels sont les mots-clés. En connaissant effectivement son secteur, ça va permettre d'avoir les bons réflexes qui vont rassurer le recruteur.
Vous les faites travailler, vous leur faites
je leur fais faire des entretiens.
Le rôle.
Donc je fais le recruteur. Déjà, on commence déjà à regarder la définition de poste, voir avec eux qu'est-ce qui pose question, qu'est-ce qui pose souci dans leur parcours. Est-ce que ils sont à l'aise avec tels éléments? Comment ils s'expriment sur leur présentation? Est-ce qu'ils sont à l'aise aussi dans la relation? Pour essayer de au fur et à mesure vraiment s'entraîner et comprendre un petit peu les codes de cet entretien, et puis savoir aussi que le recruteur, il a des enjeux. Donc, au travers de l'entraînement, on arrive aussi à comprendre quels sont les enjeux derrière telle et telle question, et ça permet de démystifier et d'être de plus en plus à l'aise.
On s'entraîne, on répète. Mais moi, je fais pareil pour les émissions. Donc finalement, il n'y a que le travail, il n'y a que ça de bon. Il faut s'entraîner, on ne va pas à un entretien comme ça, sans avoir bien réfléchi à l'avance. Alexandra Petit-Signe, merci d'avoir été avec nous, consultante de développement professionnel à l'APEC. C'est la fin de ce premier numéro d'Happy Boulot le Mag. J'étais ravie de vous retrouver et je vous dis à la semaine prochaine. Très bon week-end.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.